Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en février 2026, et d'ailleurs le titre il est pas bon, mais on va le garder comme ça, c'est pas grave. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Nous sommes bien en février 2026, et donc un grand bonjour à tout le monde, un grand merci pour tous les sponsors qui le font de manière spontanée sur GitHub Sponsor ou qui nous aident à travers la communauté. Et on revient et on profite en fait de cette journée de tempête en montagne pour enregistrer cet épisode de news où on va parler évidemment de PHP avec du native PHP, avec du Markdown qui s'introduit avec les agents sur plein de des méthodes, des petits jeux sympas. Évidemment, on va parler de l'IA et du spammage. Bon, je ne sais pas si ça existe, le spammage déjà, mais en fait, le fait de se faire spammer par des bots qui viennent infecter en fait tous les repos GitHub. Et donc, c'est le programme de cet épisode. On attaque tout de suite.
Ouais. Yes.
Allez, on commence tout de suite avec Markdown pour les agents, mais dans des fonctions serverless. Clairement, qu'est-ce que nous dit cet article de Cloudflare, qui fait partie de la documentation Cloudflare, et ils annoncent ça comme les fondamentaux du Markdown pour les agents.
Alors en fait, c'est quand tu utilises Cloudflare en termes de proxy, comme beaucoup de sites. Moi, j'ai des clients qui utilisent ça en front en fait de leur site, et donc ça filtre toutes les requêtes. Ils ajoutent une belle fonctionnalité. On a déjà parlé des fonctionnalités de blocage des bots, etc. pour les IA. Là, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais plutôt qui est positive pour les agents, en fait. C'est un truc à activer, c'est pas par défaut. Et donc, j'ai testé hier vite fait sur un site d'un client. Et ça transforme, en fait, tu vas faire un appel et tu vas dire que tu acceptes le texte slash markdown au niveau des réponses. Et automatiquement, Cloudflare va te répondre non pas en HTML, mais en markdown. Donc, il va transformer à la volée, en fait, la page en markdown.
Donc, c'est lui qui va le faire. Et toi, on va dire pour nous, côté
dev, fais rien, toi.
On n'a pas besoin, en fait, de faire une sorte de transcription ou un endpoint particulier
non.
pour le...
Rien
pour,
du tout.
C'est vraiment l'opérateur, donc sous couvert que tu héberges ton site sur Cloudflare, c'est lui qui va le faire, en fait, à la volée, sur la demande, quoi.
C'est ça. Alors, sous couvert aussi que tu aies un abonnement pro minimum. Je crois que c'est 30 balles par mois, un truc comme ça. Mais okay. Tu sais, ça apporte pas mal d'avantages de sécurité, etc. Notamment sur les sites WordPress, etc. Ça ajoute vraiment une couche de sécurité, de cache, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, je peux faire la pub pour Cloudflare non plus. Mais cette fonctionnalité est super intéressante. Pour un point très particulier, en fait, c'est que les agents, quand ils vont charger une page d'un site, parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vas poser une question, il va aller chercher sur les sites, il va charger les pages web en HTML. Et en fait, le fait de les transformer en Markdown, ça enlève énormément de bruit, en fait, et ça diminue considérablement le nombre de tokens, en fait. Donc, ça fait économiser des tokens, en fait, au niveau des agents. Donc, c'est super intéressant.
Et oui.
Pour tout le monde, en fait. Et puis ça, pour ton site aussi, je pense.
Ouais, c'est donc toute la partie JavaScript, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste de la donnée. Quelle est la donnée? Donc, au lieu de trimballer tout le merdier, il va récupérer l'essentiel via le Markdown. Top. Ça, c'est des fonctions qui sont aujourd'hui disponibles c'est directement disponible, donc ça c'est cool. Mais c'était une fonction qu'on pouvait mettre nous en place pour nos sites internet où on venait en fait coder cette fonctionnalité là. Et là en fait c'est intégré directement sur Cloudflare. Top, c'est beaucoup plus rapide et comme tu dis, ça consomme moins de tokens. Donc à la fin en fait tout le monde y gagne. Donc non, top ça, c'est vraiment vraiment intéressant.
Ouais, super intéressant. Ouais. J'espère que d'autres.
T'as pu tester déjà ou
ça
pas?
Ça donnera des idées pour les autres. Moi, pardon.
Tu as pu tester déjà ou pas?
Ouais, j'ai testé hier soir. Ouais.
Ok.
Comme je disais, sur un site d'un client qui est sur Cloudflare en pro, et j'ai activé vite fait pendant 3-4 minutes. J'ai fait des appels pour voir et ça répondait déjà plus rapidement et en plus en Markdown nickel et tout.
Trop bien.
Vraiment intéressant.
Excellent. Trop bien. Allez, on met un petit peu de couleur et un petit peu de front dans un univers où il n'y a que de l'IA qui parle. Mais en même temps, on va l'utiliser. On sait que le créateur de Tywin, en fait, avait annoncé des difficultés financières parce qu'aujourd'hui, en fait, la librairie de composants est devenue un standard. Tywin est devenu un standard, mais c'est même devenu en fait une partie commune, un socle tellement énorme que c'est déjà admis, sauf que bah, eux, ils sont une entreprise derrière, et donc comment ils font pour gagner de l'argent, ou en tout cas s'en sortir, difficile. Et donc l'équipe de Tailwind, en fait, revient avec un programme, enfin un nouveau site, un service, qui est pour l'instant uniquement sur invitation. En clair, c'est pour faire monter la sauce et pour faire monter du buzz, qui s'appelle UI.sh. Et qu'est-ce que ça nous promet, ce truc ?
Écoute, on ne sait pas du tout, puisque alors tous les deux, on a postulé pour l'invite, on l'a pas reçu encore. Enfin, moi, je l'ai pas reçu. Et toi non plus, je pense, mais ça va arriver. Il semblerait que ça soit une sorte de cloud code, mais pour tout ce qui est design, donc qui va certainement te pondre des interfaces web, tout ça. Donc après, on n'a pas de détails. J'ai cherché sur le net et personne n'en parle quasiment. En fait, il y a pas d'article, il y a rien. Donc c'est vraiment le truc encore top secret. On ne sait pas. Mais d'ailleurs, il y a même pas de date de sortie ou quoi.
Non, il y a rien. C'est méga hype. Après, on connaît les compétences en fait marketing de l'équipe Tailwind, qui avait fait aussi refactoring UI. C'était un PDF qui expliquait toutes les règles de design et comment respecter en fait des règles pour avoir un design corporate et joli, agréable à l'œil. Et c'est de là où était née en fait Tywin UI, donc c'est la librairie de tous les composants qui était fait sur Tailwind CSS. Alors moi, je veux bien faire un pronostic. Moi, je pense que ils vont utiliser ça pour générer des composants à la volée qui sont inspirés de Tailwind UI. Vraiment en mode prompt, quoi, tu vois.
Moi je mets
la pièce là-dessus. Après, ça reste de l'hypothétique et on sait pas, quoi. Mais
ouais, t'as raison. Non, je pense que c'est ça. Ouais, ça va nous générer des, tu vas lui dire je voudrais un truc de pricing, un truc comme ça. Il va te générer un component avec des différentes colonnes et tout ça. Ouais, mais c'est clair, c'est sûr et certain que c'est un truc comme ça.
Ça me paraît, ça me paraît le plus probable, c'est ça, quoi.
À noter que la dernière fois, tu sais, donc on avait parlé de que Adam Watan, comment ça, c'est quoi son nom déjà?
C'est Adam Watan.
Adam Watan avait dit, on a des problèmes de financiers, tout ça, et suite à ce tweet, machin, etc., il y a eu plusieurs donations d'entreprises, etc. Donc, alors, je dirais pas qu'ils sont sortis de l'auberge, mais ça a suscité en tout cas des réactions et des donations pour Tailwind, le projet en lui-même. Donc, intéressant.
Excellent. Mmh. On dit souvent que les entreprises ont du mal en fait à subventionner ou à sortir le chéquier alors qu'ils font beaucoup de beurre. Ils construisent en fait leur service avec des briques open source. Et pour le coup, là, s'ils réussissent à sortir le chéquier et à donner de l'argent, c'est quand même plutôt appréciable et suffisamment important pour qu'on le note. C'est cool.
Super.
Merci. Natif PHP. Allez, on bascule dans l'univers du PHP avec du mobile, en fait du native. Souvent, en fait, natif, ça veut dire qu'on va faire une application mobile. Et c'est vrai que le PHP, on peut pas dire que ça soit le langage qui vient à l'esprit dès qu'on veut faire du mobile. Et là, pour le coup, c'est une librairie native PHP qui nous permet de faire des applications à la fois desktop et mobile. Je pense que c'est très inspiré de Native React React Native, pardon. C'est un peu dans la même philosophie.
On en avait déjà parlé en fait. C'est pas un projet qui est tout nouveau. Il est sorti il y a un an et demi, un truc comme ça. Donc ça te permet de faire des applications natives desktop et mobile avec du PHP derrière. T'as une runtime, tout ça, qui vont te transformer en native WebView, etc. Enfin, il y a tout un système. La version, jusqu'à maintenant, en fait, la version desktop, tu pouvais faire des applications desktop gratuitement, utiliser le projet gratuitement et créer tes applications desktop et les publier. Et la version mobile était payante avec un, je sais plus, il y avait un forfait mensuel ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment ça marchait. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'ils ont rendu gratuite la version mobile aussi. Donc maintenant, tu peux créer des applications mobiles avec le PHP gratuitement, utiliser le projet, etc. Alors tu vas me dire comment ils font de l'argent. Eh ben, ils ont des plugins en fait. Il y a quelques plugins en fait qui sont payants. Il y a des fonctionnalités que tu veux utiliser, je ne sais plus ce qu'il y a, des exemples, il faudrait regarder, mais exemple, tu veux des notifications ou des trucs comme ça, ou une base de données ou des choses comme ça, tu vas être obligé de passer par un plugin, et certains sont payants, alors c'est assez modéré, c'est pas énorme en tarif, mais du coup, voilà, ça te permet de financer un peu le projet et d'utiliser le système.
Donc, une sorte de marketplace où en fait, ce que tu viens...
Tu vois,
tu viens utiliser ces marketplaces. Ouais, bien sûr.
Tu as un starter kit à $199. Je crois que c'est, tu payes qu'une seule fois, il me semble. Et après, voilà, tu peux utiliser toutes les fonctionnalités comme la géolocalisation, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal.
Sous couvert qu'on est un développeur PHP et on veut faire du mobile, excellent quoi.
Bah disons que c'est vraiment destiné aux équipes qui ont déjà des compétences PHP.
Ou voilà. Déjà un produit PHP peut-être.
Ou déjà ouais, une base tu vois, PHP.
Ils ont déjà un produit et il faudrait faire une extension ou en tout cas une appli mobile natif sans devoir tout recoder. Ils peuvent peut-être s'appuyer sur leur background déjà existant pour pas repartir de scratch quoi. Donc c'est nice, propre.
Ouais, c'est nickel.
Allez, un petit jeu Trois-Rivières, c'est Corben qui en parle. Trois-Rivières, un petit jeu. Moi, comme ça, je vois ça là. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être dans Zelda Ocarina of Time.
Alors, ouais, ça ressemble.
Donc, c'est le grand jeu de notre époque, je pense. Mais en quoi, en fait, ce jeu est intéressant ?
Alors, c'est un jeu qui a été fait avec l'ADEME. C'est le truc de l'écologie. Je sais plus quel organisme français de l'écologie, etc. Donc, c'est avec plusieurs organismes de l'État.
Étatique.
C'est destiné à de l'éducation, en fait. Il est destiné, en fait, à être utilisé à l'école avec un professeur ou une professeuse. Professeur, ça se dit pas, non? Professeur, non. C'est mieux comme ça. Et donc, en fait, tu laisses jouer. Donc, c'est 30 minutes à peu près la partie. Et ensuite, évidemment, il y a un débat, etc. Et le jeu, pour expliquer vite fait, c'est une petite fille qui s'appelle Mai qui va se déplacer dans le jeu. Il va y avoir des mines où ils vont extraire des
ressources.
Matières rares, des ressources pour faire après des consoles. Donc, après, tu vas faire des circuits électroniques. Et à la fin, tu vas jouer dans une sorte de truc pour recycler les téléphones, etc. Donc, c'est vraiment pour donner conscience que tous ces appareils électroniques, tout ça, voilà, ça a un impact, en fait, puisque au fur et à mesure du jeu, en fait, la rivière devient polluée, etc. Donc, il est super sympa.
Et je vois que ça a été fait avec Phaser, qui est un framework.
Ouais.
Qui est connu pour faire des jeux vidéo en JavaScript, d'accord. Je crois.
En fait, le truc en plus,
HTML, le CSS, truc, JavaScript.
Il est éco-conçu en plus, le jeu. C'est-à-dire qu'il pèse 14,2 mégaoctets au total, donc c'est très très peu. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de... T'as des jeux dedans, etc. Si tu te déplaces dans un monde, etc. C'est vraiment complet, bien fait et tout ça. Donc c'est assez fou, le poids final. Il est très peu gourmand, ça joue, donc c'est une adresse web, tu joues dessus, tu te connectes et puis tu joues. C'est hyper simple. J'ai testé avec mon neveu ce week-end. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Puis il a bien kiffé. Et il a même redemandé à jouer derrière, donc j'étais assez surpris. Donc pourtant, il est très habitué aux consoles japonaises. Donc ça n'a rien à voir au niveau graphisme. Et pourtant, ça lui a super plu. Donc comme quoi, la jouabilité, tout ça est bien faite.
Et, intéressant.
Voilà.
Très intéressant.
Petit jeu sympa, ouais.
Et Phaser, super framework, excellent. Allez, on revient. Tu disais que ça faisait 14 émos pour un jeu. On a vu l'effervescence de Claude.
Alors, quel nom ?
Claude,
parce qu'il y en a eu trois.
De Mold Claude, de Open Claude. Voilà, bon, on va pas refaire l'épisode qu'on a déjà fait la dernière fois où on parlait de cet engouement. Là, par contre, c'est le même système. En tout cas, qui se veut dans la même utilité. Ça s'appelle Pico Claude. Et lui, le gros avantage, c'est qu'il tourne sur des petites machines et qu'il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mémoire et donc qu'il va faire exactement la même chose.
Ouais, c'est tout frais, hein, ça vient de sortir. Ça a été tout simplement, c'est OpenClaw, c'est le dernier nom en date.
Ok.
Alors, on va pas revenir sur le drama, parce qu'on a fait l'épisode, on en avait parlé, mais après, il y a eu un drama qui a duré, qui dure encore d'ailleurs. Et d'ailleurs, le créateur vient d'être embauché par OpenAI, mais on va pas revenir là-dessus, parce que bon, bref. Mais en tout cas, les Chinois, ils sont très bons, parce qu'ils ont repris, ils ont recodé le truc, la même chose, mais en Go, tout simplement. Donc, ça s'appelle PicoClaw, et c'est capable de tourner sur un Raspberry. Donc,
toute petite machine. Ouais. Par contre, est-ce que tu as une inférence à 2 à l'heure ou quoi ? Parce que bon, ok, ça tourne, c'est bien, mais si tu as 3 tokens à la seconde, ça va être long, quoi.
Non, ouais. Je pense qu'après, de toute façon, ça reste des modèles en cloud. Donc après, le modèle, il tourne. Après, ça dépend de la machine, mais non, en tout cas, ce qui est marqué en haut, c'est moins de 10 MO de ressources pour le faire tourner. Donc. C'est ultra light, quoi.
Ok. Pour faire l'orchestration de toutes ces tâches et faire appel. Tout petit, parfait. On le redit quand même parce qu'il faut. Attention à tous ces outils quand vous donnez des accès, quand vous donnez vos accès, vos identifiants. Faites attention et prenez conscience que vous ouvrez. En fait, posez-vous la question, est-ce que je donne tous mes accès ? Et à ces types de logiciels-là, faites-le en conscience. Voilà.
En tout cas, entre-temps, c'est pas mal. De toute façon, ça fait. Je pense que cette aventure va faire sortir des nouveautés, évoluer. D'ailleurs, OpenAI donc vient d'embaucher, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a créé le truc OpenClaw. Derrière, il y a eu des cloud providers qui ont créé, qui ont rendu dispo des OpenClaw. Hébergé, tout ça, machin, disponible sans que tu fasses l'hébergement. Donc, tu vois, ça a évolué, il y a des choses disponibles qui sont plus sécurisées, tout ça. Donc, bon, après, ça n'empêche pas que tu donnes quand même accès à tes mails et tout ça, mais.
Voilà. Yes.
Chacun fait ce qu'il veut.
Exactement. Autre news, NPMX. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est une refonte, un fork de NPM ou rien à voir ?
Non, c'est une interface. C'est une interface au-dessus. Donc c'est NPM derrière. Hein, c'est une interface, mais pour aller chercher. C'est comme NPM, mais hyper rapide, hyper moderne.
Ok.
Donc ils utilisent l'API NPM de toute façon. Hein. Okay. Mais en fait, tu fais une recherche, c'est ultra. Ah ouais, ça, c'est ton, c'est ton extension.
Excellent. Et ok.
Milicherche.
Et donc, ça.
Donc, tu vois, c'est hyper rapide, c'est bien présenté et tout.
Ça vient récupérer toutes les infos qui sont déjà présentes sur NPM. Mais c'est juste un peu plus moderne, en fait. C'est tout.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est marqué Fast Modern Browser for NPM Registry.
Okay.
Ouais, donc c'est vraiment rapide et moderne. Et d'ailleurs, c'est clair, c'est ultra rapide et en plus, c'est bien présenté. Donc ça serait pas mal qu'ils refassent NPM dans ce style-là. Quoi.
Ok. Et pour le coup, je vois que tu peux comparer deux informations pour avoir en fait en parallèle. Donc si tu voudrais en fait potentiellement tester ou en tout cas avoir des statistiques sur deux librairies, tu peux voir en fait là de manière côte à côte toutes les informations qui sont juxtaposées les unes sur les autres. Et donc, on voit toutes les informations. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa, ce qui évite de faire des recherches plutôt complexes. Et, non, top. Ouais, c'est joli, vachement plus joli, et je pense que pour faire ces recherches, c'est plutôt pas mal.
Si ça pouvait donner des idées à NPM, ça serait pas mal.
Allez, on bascule sur les Transformers qui passent en V4. Donc, c'est Hugging Face qui vient avec un article sur les Transformers JS qui passent en V4, en preview. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi on devrait s'y mettre et regarder les potentialités de ces nouveaux Transformers?
En fait, Transformers JS, je rappelle, on en avait déjà parlé, mais c'est une librairie qui permet de faire tourner des modèles en local dans votre navigateur. Donc, ça marche plutôt pas mal. On avait parlé la dernière fois des web GPU qui arrivaient. Donc, la disponibilité des web GPU dans les browsers. Donc, là, ça devient une réalité. Et donc, ils ont réécrit en C++ le moteur. Si tu remontes un petit peu dans la page, c'est écrit juste au-dessus. Ils ont complètement réécrit la runtime, en fait, pour le web GPU en C++. Et donc, elle marche évidemment mieux, plus rapide, etc. Et donc, ils ont déjà 200 modèles supportés au niveau d'architecture. Donc, voilà. Là, on est qu'en preview. Hein, c'est pas encore officiellement lancé. Mais voilà, ils améliorent encore, donc toujours plus de possibilités pour faire tourner des modèles en local dans votre navigateur. Et donc, voilà.
Ça, c'est vraiment sympa. Au-delà de la dimension vraiment modèle qu'on connaît, mais il y a de plus en plus de services où on réfléchit en fait à vraiment dire, écoutez, le client, il a une machine, souvent il a une machine, mais super puissante. Pourquoi on n'utiliserait pas la puissance de la machine du client plutôt que de centraliser sur des énormes serveurs qui, en fait, vont nécessiter d'avoir des grosses machines et pour pouvoir supporter toute la charge de tout le monde, on va dire, OK, chaque utilisateur va utiliser la puissance de sa machine. Un exemple typique, je vois sur un de mes clients où ils veulent faire de l'analytics et donc récupérer toutes les infos. En fait, aujourd'hui, il y a un moteur qui s'appelle DuckDB qui nous permet en fait de faire de l'agrégation sur telle date. En fait, cette instance de DuckDB, on l'a fait tourner en local et c'est vachement plus rapide et c'est beaucoup plus facile en fait à entretenir, en tout cas à déporter chez le client. C'est inodore, lui il voit rien du tout à part peut-être son CPU s'il a une toute petite machine, alors là oui, mais comme je suis dans un univers où je connais le parc machine de mes clients parce que c'est fermé, c'est vachement plus intéressant. Et là en fait on voit vraiment l'extension qui arrive sur tous les LLM en disant le browser est peut-être le bon endroit pour le faire et ça c'est vraiment super encourageant parce que un truc que tout le monde a utilisé c'est le Whisper, l'outil de transcription de voix à texte. Il y a beaucoup de modèles qui sont sortis où justement on pouvait les mettre dans le browser quoi et donc ça ouvrait des belles possibilités. Et là, encore plus puissant, encore plus facile à mettre en place.
Ouais, en plus, oui, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place ou même des moteurs. Enfin, il y a plein d'idées à faire, mais tu vois, tu peux faire de la recherche directement dans le browser avec de l'embedding directement dans le browser. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables, en fait. Il faut juste trouver les idées, en fait.
Ouais, ça, on va bien trouver des cas d'usage.
Ouais.
Donc, c'est plutôt sympa. Nice. Allez, on rentre dans la guéguerre où on parle de souveraineté technologique avec évidemment un drapeau américain au milieu. Pour faire court, on est quand même tributaire de beaucoup de choses en termes de souveraineté technologique. On est quand même sous couvert de beaucoup de technologies américaines. Et on ne peut pas nier le fait que Proton, qui est une boîte suisse, œuvre vachement dans cette souveraineté et en tout cas de limiter cette dépendance américaine sur tous les acteurs technologiques. Et je pense qu'il y a de plus en plus de business justement qui essayent de sortir de cette dépendance américaine, de dépendance à Google, des grosses dépendances aux GAFAM ou à toute l'infrastructure technologique. Et là, ils mettent en place un observatoire de la souveraineté technologique de l'Europe.
Ouais, c'est des premiers. Alors, c'est basé principalement sur tout ce qui est messagerie pour l'instant, puisque c'est un peu leur domaine. Donc, ils ont fait des stats sur la dépendance des pays par rapport aux messageries de services américains. Donc, ça va être Google ou Microsoft. Et donc, on a tous les pays, là, la liste des pays et à quel niveau ils sont dépendants. Et voilà. Donc, on voit que l'Islande, la Norvège, c'est les premiers, donc énormément, hein, 97, 96%. Donc, ils sont ultra dépendants. La France, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. On a 66%, donc on n'est pas dans les premiers quand même, mais c'est déjà pas mal, quoi.
Ouais. Après, deux tiers, donc ça, si on pourrait simplifier les 66%, ça veut dire que deux tiers des services technologiques qu'on utilise sont américains.
Alors, après, ça concerne. Alors, ces chiffres-là, ça concerne essentiellement les
Uniquement la
entreprises.
messagerie. Ok, d'accord.
Et les messageries, ouais. Mais c'est quand même grave, parce que ça veut dire que le business, en fait, 66%. Et dépendant de services américains. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le... avec. Enfin, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce qui peut se passer. On est surpris à chaque fois. Donc, ça peut couper le business, ouais. Du jour au lendemain. Il pourrait très bien bloquer certaines entreprises où on ne sait pas en fait exactement ce qu'il pourrait faire. Mais
Ouais. Mais ça c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui n'était pas là il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, vu les tensions politiques, géopolitiques à travers le monde, de plus en plus d'acteurs européens, justement, réfléchissent à une mise en place de souveraineté digitale, numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'intégralité des business se font en ligne. Nous, on en fait notre beurre parce que c'est notre métier. Mais utiliser des services franco-français ou en tout cas européens vient limiter cette dépendance. Et je pense que c'est pas mal. Par contre, je pense que ça ne se fait pas en instantané, quoi. Il faut vraiment
Non, c'est très long.
une vraie réflexion, une vraie stratégie, et c'est pas du on-off, quoi. Il faut vraiment passer les étapes fur et à mesure, quoi.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai en prévision un article. Alors, je dois faire un article parce que j'ai commencé à migrer. Enfin, j'essaie. Alors, mon objectif, c'est d'arriver à passer un maximum de choses sur les services européens,
OK.
mail, etc. Et c'est pas simple, effectivement, comme tu dis. Il y a des choses, c'est facile, hein, les emails, c'est facile de changer de boîte email, hein, tu transfères, machin, t'importes tes emails, c'est réglé. Donc moi, je suis ProtonMail et Infomaniac K-Suite. Donc ça, c'est bon, Gmail, hop, j'ai encore de côté, mais je vais la fermer progressivement. Après, il y a plein de choses qui sont pas forcément transférables. Puis d'autres, ça
Tu
prend
penses
du
à
temps.
quoi? Qu'est-ce qui est plus dur à
Bah, par exemple,
transférer?
tu prends WhatsApp, par exemple, si c'est pas simple parce que ta communauté, tes clubs, etc., suivant ce que tu fais, ils sont dessus et quitter WhatsApp, ça veut dire ne plus pouvoir communiquer avec eux. Donc, et eux, ils vont pas forcément vouloir migrer non plus. Donc, tu vois, ça, il y a des outils comme ça qui sont très difficiles à changer. GitHub aussi, tu vois, GitHub, c'est très compliqué de changer. J'ai
Ouais.
commencé à regarder, mais oh là là, c'est pas simple.
Non.
Après, il y a des choses plus simples que les emails, tout ça. Par contre, les emails, tu vois, comme ma boîte perso, t'es sur Gmail, j'ai énormément de comptes sur des sites, tout ça, qui sont avec mon adresse Gmail. Donc, progressivement, il faut que je change tous les comptes avec ma nouvelle adresse. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. C'est pas si simple.
Non, non. Après, sur les emails transactionnels, quand même, il y a aujourd'hui plein d'acteurs européens qui nous permettent justement de pouvoir envoyer des emails sans passer par des
Ouais.
services américains. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est une solution qui marche plutôt bien. Pareil pour les envois de SMS. On n'est pas obligé d'utiliser les gros majors. L'hébergement, on a quand même des hébergeurs notables en France. Donc, mine de rien, il y a quand même un effet qui se met en place, et il y a de plus en plus d'infos justement sur toutes les alternatives européennes aux gros américains, aussi bien sur des logiciels spécifiques ou des logiciels open source qu'on vient auto-héberger. Mais est-ce que si le source code est américain, quelle est la gouvernance de cette... Enfin, voilà, ça peut aller très 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 loin. Donc,
C'est clair.
il faut essayer de faire attention. Mais néanmoins, c'est quand même un sujet, on le sent, de plus en plus touchy, ou en tout cas, l'intégralité des business prennent en compte aujourd'hui cette notion-là qui était totalement absente il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est plutôt bon signe.
Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est une très bonne chose, de toute façon, ce qui se passe. Et ça fait réfléchir. Certains font les démarches pour essayer de transférer. D'autres réfléchissent. Enfin, voilà. Mais c'est une bonne chose qu'on se pose la question. Quoi,
oui.
Pour diminuer cette dépendance. Ouais.
Clairement. Clairement, clairement. Allez, on repart sur la tendance des MCP avec cette fois-ci un article de blog. Par contre, là, on nous parle de Web MCP. Qu'est-ce que c'est ce concept et en quoi c'est super intéressant?
Alors, les Web MCP, c'est un nouveau système. Alors, c'est pas forcément Google qui le pousse, hein, mais c'est eux qui vont sortir ça en premier sur Chrome. Et le principe, c'est... alors, tu as deux systèmes. Tu as du déclaratif ou du... tu peux descendre un poil, s'il te plaît. Déclaratif ou de l'impératif, voilà. Tu as deux API qui sont disponibles. Et comme c'est des MCP, l'idée, c'est de fournir des outils à l'agent qui va visiter ton site, en fait.
OK.
Donc, voilà.
Donc, en fait, donc, c'est un peu le navigateur du MCP. Est-ce qu'on pourrait dire ça va permettre au MCP de pouvoir naviguer dans ton site plus facilement?
Naviguer, non, mais faire des actions, en fait.
OK. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Chrome qui va avoir, en fait, deux ports ou des routes pour que le MCP, en fait, puisse utiliser Chrome et au lieu de faire des sessions où il simule l'action d'une personne, là, il va pouvoir utiliser ses routes et pouvoir interagir avec le moteur de Chrome, mais non pas en mode puppeteers où on vient, en fait, simuler l'action humaine, mais là, il irait directement parler avec la machine, quoi. C'est ça?
Alors tu as deux trucs. Alors, je te laisse passer sur le lien suivant. OK. Et je vais t'expliquer.
Documentation.
Donc, en fait, tu as deux systèmes. Donc, le déclaratif, c'est celui où tu as un formulaire où tu vas déclarer via des attributs dans le formulaire que cet outil, c'est un outil pour envoyer un message. Et après, il y a quelques autres attributs que tu vas rajouter. Donc là, tu déclares... après, il ne faut pas que je me confonde entre impératif et déclaratif, mais enfin, il y en a un où tu mets des attributs dans un formulaire, par exemple, et tu dis ça, c'est pour envoyer des contacts. D'accord. Et ensuite, il y en a un où tu vas utiliser une nouvelle API qui te permet de déclarer des outils, en fait. Donc, je ne sais pas si on a un exemple de code dans cette page-là, un petit peu plus bas. Peut-être le quick start ou je sais plus. Ouais, en fait. Bon, bref. En fait, tu vas déclarer des outils et tu vas lui dire cet outil est disponible avec tel nom, etc., etc. Alors, peut-être le lien suivant. Il y aura plus d'infos. Voilà, celui-là. Alors ça, c'est un article assez long où le mec, il détaille tout, qui est bloqué, évidemment. Donc, dommage. Donc, attends, je vais ouvrir moi de mon côté.
Et... Pour le coup, là, en fait, ce qu'on voit pour les auditeurs qui nous écoutent sur leur téléphone ou dans leur voiture en mode podcast, mais qui n'ont pas la vision, en fait, on voit de manière explicite les champs auxquels on va demander à l'agent de remplir. Donc, il va aller chercher le champ, par exemple, name, et à l'intérieur, il va mettre la valeur qu'on lui a attribuée. Et donc, c'est totalement, totalement explicite, quoi.
Donc, si tu cliques sur le troisième... reviens sur le sud avant. Et si tu cliques sur le troisième onglet concept, on a l'exemple en haut. Voilà, le core API. Donc, en fait, voilà, on y est. Donc, au niveau de Navigator, maintenant, tu auras une nouvelle API qui est disponible, modèle contexte avec Register Tools. Et là, tu vas lui dire un nom, description, ce que tu attends en input. Et ensuite, l'exécution, donc, il va appeler une fonction, etc. Ça peut être du fetch ou n'importe quoi. Et en fait, quand l'agent va arriver sur ton navigateur, il va de suite appeler les fonctions Navigator, modèle contexte pour voir quels outils sont disponibles. Et donc, il va voir, OK, là, je peux appeler ça, je peux appeler ça, je peux rajouter au panier, etc. Et donc, il va essayer de les utiliser pour... L'idée, en fait, c'est, par exemple, tu vas dire à ton agent, réserve-moi un avion pour aller à Nice, par exemple. Et il va arriver sur le site de la compagnie aérienne et les outils seront disponibles pour réserver un avion avec... Il va lui dire tel endroit, je veux aller, telle date, etc. Et il y aura l'API qui va répondre directement. Il n'aura pas besoin de fouiller, en fait, dans le site pour savoir comment je dois réserver un avion, où je dois le moteur de recherche, etc.
Donc, en fait, ça s'inscrit dans cette logique de faciliter l'accès aux agents en leur donnant accès directement à des fonctions, à des solutions, pour que, en fait, l'agent n'ait pas besoin de réfléchir à comment marche ton site. Il y a, y a déjà une fonctionnalité qui lui permet de faire. Ce qui reboucle totalement sur ce qu'on avait déjà évoqué dans, le futur, dans un épisode précédent, où on disait que, en fait, la tendance allait être à la fois, on va coder et on va faire une expérience pour les humains, et on va faire une expérience pour les agents.
C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait,
cet outil nous permet vraiment de faciliter le boulot des agents. Et donc, maintenant, on aura back-end, front-end, agent, quoi.
Tout à fait, ouais. En fait, c'est exactement ça. Et par exemple, si par exemple, tu veux lui donner la liste des produits, il va appeler l'outil list product, par exemple. Et toi, tu vas, il y a un autre truc, une autre API qui permet de, au niveau de la, de ton fetch, de détecter que c'est un agent. Et au lieu de lui répondre avec tout un, des trucs de décoration autour, en fait, tu vas savoir que c'est l'agent et tu vas lui répondre différemment, juste simplement avec une liste en JSON, par exemple, tout ça. Donc, tu lui parles à lui spécifiquement dans un format spécifique. Voilà.
Bah oui, beaucoup, beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de te faire chier avec du beau design, du beau, des beaux composants, tout. Là, tu peux aller direct, droit à la source, beaucoup plus facile.
C'est ça. Et dans l'article là sur le troisième article, en fait, le mec il explique. Alors il y a des gens qui disaient non, mais ça marche pas comme ça, etc. Il disait, en fait, quand l'agent il navigue sur le web, il fait des screenshots, il voit où les boutons il peut cliquer, ou le moteur de recherche par exemple. Après il va le chercher, il va cliquer, il va refaire un screenshot, il va, tu vois, il dit au fur et à mesure qu'il avance, l'agent il fait des screenshots, il cherche les éléments, tout ça du X. Et donc, grâce au WebMCP, en fait, il aura besoin de faire ça, et ça va aller super vite, etc. Donc,
oui.
Donc c'est intéressant à voir si ça prend, etc.
Après,
donc,
si...
entre vous dans Chrome.
Bien sûr, mais pour toutes les personnes qui développent un service qui a pour vocation, en fait, à la fois d'être utilisé par des agents et par des humains, cette fonctionnalité est super intéressante. Parce que, justement, ça sera beaucoup plus rapide pour les agents. Et donc, à mon avis, demain, un agent aura un choix à faire entre parser le site avec des screenshots, faire, comme tu dis, aller regarder comment on fait pour ajouter au panier, ou utiliser directement le code disponible, genre le sitemap un peu pour les agents. Bah, ça sera beaucoup plus facile si tu lui as codé déjà tout accessible. Et donc, l'agent va sans doute faire un arbitrage et utilisera le site qui est déjà prêt à son utilité, plutôt que... on part du principe qu'un humain est feignant. Je ne serais pas surpris que demain, un agent le soit aussi. Et donc, lui faciliter le travail permettra d'être mieux référencé, on va dire, ou en tout cas, être utilisé en priorité. C'est très intéressant.
C'est clair que, tu vois, là, OpenAI avait sorti tout ce qui est, je crois qu'ils appellent ça des plugins. D'ailleurs, il y a un site d'annonce français qui a sorti le sien aussi. Tu sais, c'est des sortes d'applications dans ChatGPT et tu peux faire des recherches, etc. Je pense que ça, si le web MCP prend, c'est la fin des plugins dans ChatGPT, c'est clair. Et après, il y a des sites comme hotel.com, tout ça, tous les trucs de réservation d'hôtels, d'avions, etc.
Là,
ils vont
être
super friands des WebMCP, quoi. Parce que si demain un agent peut réserver des hôtels, etc., grâce au WebMCP, ça va cartonner, quoi.
Ouais, et limite, il suffira peut-être, même si je supporte pas ce mot, il suffit d'eux, mais d'avoir en fait, d'autoriser, de prendre en fait le WebMCP officiel du magasin ou du service. Tu auras juste une validation à faire sur ce, peut-être pour valider en fait, utiliser le bon web MCP du provider que tu connais. Donc, par exemple, je sais pas si c'est une réservation d'un hôtel ou d'un site de e-commerce, tu autorises tu autorises que ce MCP là, et comme ça va beaucoup plus facile. Et peut-être à la voix, tu pourras faire tes courses, le champ des possibles peut être vraiment très, 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 très intéressant, clairement.
Ouais.
Et je pense que
c'est pas mal.
Aussi, en termes de business, il y a aussi quelque chose à faire en place, c'est-à-dire de se spécialiser là-dedans pour vendre en fait l'expertise, de dire, OK, votre site, il est X. Moi, je vais le mettre, je vais coder en fait votre web MCP pour vous. Comme ça, quand les agents vont venir, ils auront déjà accès à toutes vos fonctionnalités et elles seront prêtes à être utilisées. Ouais, moi, je vois un gros business à développer. C'est ultra niché, mais venir se spécialiser là-dedans aujourd'hui, ça amène où on est les premiers sur la niche très très rapidement, quoi. Donc, à mon avis, il faut suivre ça de assez près parce que je pense qu'en termes de business, il y a vraiment un truc. Mais bon, ce n'est que mon point de vue.
Ok. Moi, je vois que ça te plaît beaucoup.
Ouais, complet. Complètement.
Non, c'est vraiment top. Je pense que c'est excellent, quoi. Et quand ça va prendre, alors c'est en preview dans Chrome, mais dès que les autres vont intégrer ça, ça va être vraiment intéressant.
Yes. Allez, on revient sur, justement, on parle d'agent. Là, c'est plutôt en mode bad buzz. C'est les agents, en fait, qui vont venir soumettre des PR ou des issues directement dans GitHub. Et en fait, tous les propriétaires ou en tout cas les personnes qui maintiennent toutes ces personnes-là, en fait, se font spammer, mais assassiner. Ils prennent des avalanches de issues qui sont générées par des bots et ça pose problème.
Oui, en fait, il y a un gros souci de spam sur les projets open source. Alors toute la vague IA pose un peu des problèmes aux projets open source parce que tout le monde a envie de développer son propre truc de son côté au lieu d'utiliser l'open source. Ça n'a ni queue ni tête parce que c'est pas seulement ça, un projet open source. Mais bon, bref. Là, maintenant, les projets open source, la problématique, c'est qu'ils se font spammer au niveau des issues, des PR, etc., par des agents IA. Alors, je sais pas d'où ils viennent, si c'est des personnes qui leur disent d'aller... Enfin, bref. Et donc, la problématique, c'est qu'ils ouvrent des pull requests, ils respectent pas. Tu sais, quand tu ouvres des pull requests ou des issues, souvent, dans les projets, des gros projets open source, tu as une sorte de template que tu dois respecter pour dire...
Bien sûr.
Dans telles conditions, etc., j'ai le problème, bien décrire, etc. Alors déjà, ils respectent rien du tout, les agents. Ils soumettent un truc sans respecter le template. Et puis derrière, en fait, ils ignorent tout et ils abandonnent l'APR. En fait, ils disparaissent et ils ne reviennent plus jamais dessus. Donc en fait, ça pose gros problème pour les mainteneurs parce qu'ils doivent lire énormément d'issues parce que forcément, les IA sont très productives. Et puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Et souvent, même, c'est des hallucinations. Là, j'ai mis le tweet d'Evan Yu qui donnait l'exemple d'une issue qui avait été ouverte par un agent IA et c'était complètement halluciné. J'ai lu le truc en fait, il explique un problème qui n'existe pas en fait. Et d'ailleurs ils ont fermé l'issue, mais voilà. Ils font face à ça tous les mainteneurs en fait.
Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait là c'est une perte de temps humain pour résoudre un problème qui n'en est pas un. Et donc au départ, on pensait que ça allait nous faciliter la vie, mais au final, là, ça vient créer plus de problèmes et surtout, ça invente des problèmes. Et donc, en fait, les agents, en fait, se croient plus malins que tout le monde. Et on a trouvé un système on a trouvé une issue, on va pouvoir la fixer, auto-fix, auto-PR. Alors, c'est cool, mais ce n'est pas un agent tout seul qui fait ça. Je pense, en fait, que c'est une personne qui utilise Claude Code ou Cursor ou n'importe quel modèle et qui, dans sa session de vibe coding ou en tout cas de coder avec un agent, l'agent hallucine et il lui propose, en fait, « Veux-tu ouvrir une issue ?» La personne partant du bonne foi, elle est plutôt de bonne foi, elle dit oui, et donc elle crée une issue. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse une PR ? Ah bah ouais, je vais faire une PR. Donc c'est pas un agent tout seul qui va sur le site et qui ouvre la PR. C'est quand même une personne qui, assistée par un agent, va ouvrir cette PR là et qui va ouvrir donc il y a quand même un peu de bon sens à respecter avant de vous croire plus malin et de pouvoir auto créer des issues et de auto faire des PR. Peut-être qu'une relecture avant d'envoyer tout sur GitHub et de spammer les repos pourrait être intéressant, quoi.
Ouais, franchement, je sais pas trop comment ça fonctionne derrière, mais en tout cas, le problème, c'est que les mainteneurs, ils passent des heures pour examiner les contributions inutiles, quoi. Donc, et en plus, souvent, ils sont, donc c'est un peu dommage. Donc, GitHub a commencé à mettre des choses en place. Ils réfléchissaient, en fait, il y avait une discussion où ils réfléchissaient qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher ça. Donc, ils commencent à changer l'interface. Ils voulaient mettre j'arrive pas à trouver le nom. Ils voulaient pouvoir supprimer déjà les spams sur l'interface déjà, et puis donner des différents droits en fait pour ouvrir des PR, etc. Donner des permissions en fait, tu vois, des pull request permissions, ils appellent ça. Donc voilà, ils réfléchissent comment on peut combattre en fait ce spam sur les projets populaires en fait open source.
Bien sûr.
Donc c'est un réel problème, tu vois.
Mais là, ils vont être confrontés à ce problème-là. Et ce qui est bête, parce que ça dessert la cause. Parce que déjà qu'en open source, tout le monde ne fait pas de PR. Ça va mettre encore plus de friction s'il y a des systèmes de rôle, tout ça. Mais en même temps, peut-être que c'est le seul moyen pour assainir un petit peu ce milieu-là et pour éviter d'être spammé. On verra comment ça évolue, mais j'espère qu'ils vont trouver une solution.
Ouais, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour l'open source. En tout cas.
Allez, on rebascule dans l'univers PHP avec une solution encore plus rapide pour faire du tooling PHP. Ça sent bien le buzzword, la punchline de 90 fois plus rapide. Mago, qu'est-ce que c'est Mago et pourquoi c'est aussi rapide ?
Alors Mago, c'est un linter formateur. Alors c'est des trucs qu'on a déjà en JS, qu'on a aussi, enfin qui existe déjà aussi en PHP, sauf que là ils l'ont écrit tout simplement en Rust.
Sans blague.
Bizarrement. Et donc il est ultra rapide. Donc il le compare à PHP Stan, PHP CS Fixer. Donc c'est des linters tout ça qui sont déjà disponibles sur le marché PHP. Moi, j'utilise Pint en ce moment, je crois. Ouais, c'est Pint, qui est déjà super rapide, mais Mago est encore plus rapide. Voilà. Donc, à voir s'il va être intégré dans les outils, les frameworks, Laravel, etc. Mais intéressant de voir qu'il y a encore des nouveaux outils qui sortent.
Ouais. Est-ce que le switch, en fait, vaut le coup je reformule la question. Est-ce que le switch, en fait, est facile à faire ou pas ? C'est-à-dire, pour passer de ce que tu utilises à la mise en place de Mago, est-ce que c'est compliqué ou ça se fait assez facilement ? Parce que là, ils disent...
Honnêtement, je ne sais pas.
Installation en 10 secondes. Est-ce que la migration prend plus de temps ou pas ? Parce que tu lances ta commande bash.
Non, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait, parce que c'est comme un JS. Tu as des conventions en fonction des frameworks, tout ça, Symfony, Laravel, tout ça. Donc, en fait, une fois que tu as ta config qui correspond à ce que tu fais... Après, évidemment, ils adaptent. De toute façon, souvent, ils prennent à peu près les mêmes configs. Donc, non, c'est assez rapide à changer. Après, moi, plutôt, j'ai plutôt tendance à attendre un peu. Quand un outil sort, à attendre un petit peu, voir s'il s'intègre, s'il est pris en main par les communautés, tout ça, avant de vraiment commencer à l'utiliser. Parce que changer pour changer, c'est bon, quoi. Pas changer tous les mois le linter du projet, quoi.
Oui, ça se tient. Ça se tient totalement. Yes. Allez, on reste dans l'univers IA en mode un peu Black Mirror, Terminator, tout, ou comment, petit article, ou comment 200 lignes de code en Markdown, en fait, vont avoir pour conséquence une perte de valorisation boursière de 285 millions. milliards, pardon, excuse-moi. Tu peux résumer cet article-là qui est un peu apocalyptique.
Ouais, en fait, c'est suite à Claude Work, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui fonctionne avec des plugins. Les plugins, a priori, c'est principalement des fichiers Markdown qui donnent des instructions en fait à Claude. Et notamment, ils ont sorti un plugin qui concernait tout ce qui était juridique, etc. Donc, t'aider à faire des textes juridiques et tout ça. Et cette sortie en fait de plugin a causé une chute assez importante en fait au niveau de la bourse de tout ce qui était entreprise SaaS etc basé sur les abonnements sièges etc. Donc ça a fait une perte sur une journée de 285 milliards de dollars, ce qui est quand même assez énorme. Ouais. Et surtout ça a révélé que les marchés en fait ont plus trop confiance en fait au niveau des entreprises qui tarifent avec les tarifications par siège, tout ce qui est abonnement récurrent etc. Donc
ouais, ils appellent ça le
voilà, ils ont appelé ça, les traders, le SaaSpocalypse, en fait. C'est-à-dire oui. qu'ils sont persuadés en fait, que les IA vont automatiser les tâches traditionnelles, etc., et qu'ils vont prendre la place des SaaS, en fait. Et donc, ça commence à sentir le roussi pour tout ce qui est entreprise avec abonnement mensuel.
Oui.
Même si, moi, personnellement, je pense que c'est une... Après, tu ne sais pas si tu as suivi, mais les Microsoft, tout ça, ils ont dit que c'était un petit peu abuser la réaction des marchés par rapport à ça.
Oui, parce que c'est pas leur avantage, mais j'ai rarement vu Microsoft qui va s'injurier quand ils prennent 10 points dans la journée parce qu'il y a une news, tu vois. Donc
je suis un peu d'accord parce que si tu veux la réalité c'est que c'était que 200 lignes de markdown en fait le plugin, c'était pas un truc révolutionnaire, tu vois. On va pas dire que je veux dire un SaaS c'est pas seulement 200 le logiciel en fait. Il y a tout ce qui va autour etc.
Oui.
tu vois. Donc
oui. Mais pour le coup en fait je pense que la réaction est exacerbée sans doute, mais comme toute valorisation boursière c'est basé sur la peur du marché, de l'investisseur, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il y croit plus. Bah en fait quand il y a un recul des fonds, c'est que ça veut dire que les personnes n'y croient plus. Pourquoi ils y croient plus ? Ça, c'est une vraie question. Et c'est pas les 200 lignes qui posent problème. En fait, c'est le fondement et c'est l'action sous-jacente que une IA en fait aujourd'hui va pouvoir faire peut-être 80% ce que les gros, les Oracle, les SaaS, les SAP, les Salesforce font déjà. Une équipe formée que tu vas payer cher, soit, mais qu'en une semaine ou en deux semaines ou même en un mois, ils vont pouvoir peut-être recoder les 20% ou peut-être même plus que la société utilise Salesforce. Et en fait, ils vont se concentrer que sur les features que la société utilise parce que quand tu discutes avec les grosses sociétés, ils n'utilisent que 20% de leur toute la possibilité. Je vois par exemple Power BI. Bon nombre de sociétés utilisent Power BI parce que c'est intégré dans l'écosystème et tout ça, mais au final, ils n'utilisent que 5 ou 10% des fonctionnalités propres. Et là, ce que ça met en exergue, c'est que c'est avec ces skills, avec ces coworks-là, ils vont pouvoir en fait changer le paradigme, c'est-à-dire, OK, on va définir clairement avec tout ce qu'on sait faire de vibe coding, on va écrire ce qu'on veut vraiment, et au lieu de payer par siège, on va le payer une fois et ça va nous appartenir. Et donc, ça va changer le paradigme. Alors oui, il y a l'infrastructure. Oui, il y a le SLA de 5.9 ou toutes ces choses-là. Exactement, la maintenance, on est d'accord. Sauf que quand tu lâches peut-être pour des grosses sociétés 10, 15, 20 ou 30 000 dollars par mois à des gros Américains, est-ce que tu n'as pas meilleur temps de réfléchir un peu et peut-être de changer ta stratégie, de changer ton approche? En plus, en termes de comptabilité, quand tu fais ton logiciel, ça rentre dans les assets de la boîte. Donc, quand tu vas discuter avec le CFO de la boîte, il comprend tout de suite que, OK, tu mets un billet, mais le logiciel, il t'appartient, ça rentre dans la valorisation de la boîte. Oui, il y a des dépendances qui vont être différentes sur l'hébergement, sur la maintenance, tout ça. Très bien. Mais d'un côté, Power BI ou Salesforce ou Oracle ou SAP, c'est des rentes à vie, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être que le marché et les financiers se mettent à raison de dire il y a peut-être un truc à faire. Une fois de plus, on va dire que je suis capitalistique, mais moi, je vois une opportunité pour nous, devs, de justement utiliser ces outils-là pour aller amener des solutions homemade, quoi. Et quand on parle de souveraineté, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à faire de l'auto-hébergé ou en tout cas de passer par des pros qui font ça, qui font de l'infoservice, de l'infogérance de serveurs, mais sur un logiciel qui nous appartient? Je pense que quelqu'un qui sait faire un peu des maths, il va vite comprendre, hein.
Ouais, alors après, ça, évidemment, ça dépend le SaaS, etc. Hein, ça dépend le service, tout ça. Mais je pense que, alors pour une société qui a des devs, tout ça, qui a des connaissances, qui a un service informatique, tout ça, éventuellement, à réfléchir à faire son propre SaaS, etc., ça peut être valable. Du moment que tu sais, voilà, tu as une équipe technique qui sait faire un truc robuste, sécurisé, etc., qui sait l'héberger, qui sait le maintenir, etc. Parce qu'il y a tout ça derrière, en fait. Il suffit pas de faire un service qui ressemble à ce que tu faisais avec ton SaaS. Et c'est fini, en fait, parce que derrière, il y a énormément de boulot. On le sait, tu le sais autant que moi. L'hébergement, la maintenance et tout ça, c'est énormément de travail derrière.
Oui.
Donc, voilà, donc ça peut être valable pour une société qui a vraiment de quoi faire, une équipe pour faire ça, etc. Oui, alors, ça nous coûte énormément d'argent d'utiliser tel service. On va essayer de faire le même en interne et on va l'héberger, tout ça. Là, oui, ça peut être intéressant. Après, que chacun, chaque petite boîte fasse son petit SaaS en interne pour son propre usage, je suis pas sûr que ce soit vraiment valable. Et puis, ils vont vite faire demi-tour. Parce que, en fait, si tu veux, si tu prends l'exemple du e-commerce, ça fait longtemps qu'on a des projets open source qui te permettent de faire un site e-commerce toi-même. Tu prends un PrestaShop, n'importe quoi, tu peux le faire. Et pourtant, il y a quand même des gens qui utilisent Shopify. Tu vois.
Oui.
Donc, voilà.
Absolument. Après, en fait, c'est toujours à quelle échelle tu évolues. Tu vois, t'as un petit shop, t'as un seul entrepôt, t'as un point de vente et tu veux faire une extension sur le web. Voilà, t'as un point de vente physique, tu veux faire, bah, très bien, Shopify, ça marche. Par contre, quand tu commences à avoir différents points de vente avec différents opérateurs de logistique, quand tu commences à avoir des entrepôts déportés ou distribués, c'est-à-dire la moitié de ton stock est à droite, la moitié de ton stock est à gauche, et ben en fait, tout ça, les logiciels un peu out of the box, SaaS, ne prennent pas toujours en compte ce système-là. Et à quel moment il faut switcher sur une solution custom et quelle est la solution, on va dire, la plus adaptée à mon besoin? Une fois de plus, on revient, c'est l'expertise, à mon sens, en tout cas, des agences et à nous, développeurs, de bien en fait, configurer, de trouver la bonne techno à mettre en face au bon problème et au bon client pour que ça soit pertinent et périn dans le temps et rentable pour tout le monde, aussi bien pour le client que pour nous aussi, sans passer par des tickets mensuels monstrueux, quoi. Pour le coup, moi, j'ai refait un site un gros site de e-commerce où ils étaient sur Shopify. Et au final, quand on voit le calcul que ça coûte, s'ils doivent mettre en place des solutions avec des multi-entrepôts, tout ça, ils sortent à 18 000 balles par mois. Quand on fait des calculs, on leur dit bah non, en fait, on va le faire nous. Vous êtes propriétaire et oui, on va signer un contrat de partenariat, de maintenance, d'hébergement et de tout ça. Mais on est bien en deçà des 18 000 euros par mois. Donc au final, quand ils font les calculs, c'est rentable. C'est à nous d'accompagner ce changement là. Et de comprendre, tu vois, et l'expertise, pour moi, elle vient là, quoi. Elle vient là.
Il y a vraiment certainement du business à faire. On est d'accord que de toute façon, il y a certaines grandes entreprises qui abusent énormément sur les tarifs. On ne les citera
Merci.
Pas.
Merci.
Et il y a certainement du business à faire pour des développeurs comme nous, pour apporter notre expertise. Pourquoi pas développer des outils vraiment spécifiques en s'aidant de l'IA, hein, pour aller plus vite et pour que ça coûte moins cher.
Bien sûr.
C'est peut-être, oui, effectivement, du business à aller chercher. Pourquoi pas, à réfléchir. Mais oui, ça dépend, voilà, ça, c'est tout ça. En tout cas, c'est 200 lignes de Markdown et on voit que le Markdown est devenu super puissant.
Ouais, complètement.
C'est grave. En tout cas, les marchés sont très, très frileux en ce moment et la moindre annonce fait chuter pas mal de choses, donc on sent que on sait pas trop ce qui va passer en 2026, mais
ça bouge,
ça commence à être tendu.
Yes, parfait. Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode.
Ouais,
Ça te va ?
Ça roule.
Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit partage pour propager la bonne parole de Double Slash. Et on vous dit à bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao.
Ciao.